Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor, d'étoiles plein les yeux. Et pour ce numéro en direct que vous suivez par milliers des quatre coins du globe, c'est 45 ans d'Andrew Hay qui est projeté sur la toile. Quant aux yeux, ceux de Jérémy et Mathias ont bravé la fatigue pour se joindre au mien aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Les 45 ans dont il est question ici, ce sont ces 45 ans de mariage que s'apprêtent à fêter Kate et Jeff avec tous leurs amis. 45 ans de vie paisible dans le petit village de la campagne anglaise où ils habitent avec leurs chiens, leurs livres et tout leur quotidien tranquille de retraités sans problème. Jusqu'au jour où arrive cette lettre de Suisse, le corps de Katia a été retrouvé dans un glacier. Katia, on la prend avec Kate, est la première fiancée de Jeff, disparue il y a des années dans les Alpes. Et face à l'abattement et à l'égarement de Jeff devant cette nouvelle, Kate voit remise en question chaque seconde de ses 45 années de vie de couple. Les interrogations les plus cruelles affleurent, ainsi que des constatations et révélations toujours plus douloureuses. Et, jour après jour, la fête annoncée approche, comme une menace. C'est Charlotte Rampling et Tom Courtenay qui interprètent ces deux personnages, rôles qui leur ont valu un double prix d'interprétation au dernier festival de Berlin. Et à mes côtés, pour en discuter, Mathias et Jérémy. Donc, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce 45 ans ?
Alors, bonjour Rémi. Je dois avouer donc que j'ai retrouvé dans ce film un univers esthétique qui me plaît, une sorte de calme et de sérénité, pas vraiment, mais en tout cas une forme de langueur qui m'a assez plu. Voilà, ce serait mon avis premier pour le moment.
Oui, c'est langueur, c'est sûr, ça prend son temps. C'est finement dramatisé, mais ça prend son temps. Moi, j'y allais un peu à reculons en ayant vu la bande-annonce, ce qui est sans doute une erreur, parce que j'avais peur d'une bluette, d'un truc un peu sentimental. Mais en fait, c'est un risque qui est complètement écarté par le film, qui est quand même très émouvant, très, très sentimental, mais sans niaiserie. Et je pense que c'est surtout grâce aux deux acteurs principaux qui portent ça vraiment à bout de bras. Et ça, c'est magnifique, leur prestation à eux deux.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Jérémy. C'est-à-dire que c'est vraiment un film avec deux acteurs qui emplissent l'écran et qui portent un film entièrement du début jusqu'à la fin et qui rendent vraiment ce film consistant du début à la fin. Ça pourrait être une bluette, comme tu le dis. Ça pourrait être un petit peu vide de sens, être complaisant parfois. Ça pourrait être long aussi et je n'ai pas trouvé que ça le soit. C'est lent, mais pas long. Et c'est grâce, en effet, à la prestation des acteurs qui, bon, c'est deux monuments. Et c'est vrai qu'on voit ici toute la qualité du jeu de Charlotte Rampling et Tom Courtenay qui tiennent ces rôles de façon vraiment formidable.
Oui, enfin, je trouve qu'il y a un excellent équilibre entre eux parce que, enfin, il y a quand même un effet de huis clos dans ce film. On est souvent chez eux. Et le pendant un peu négatif du huis clos, c'est que ça fait des films bavards. Or, enfin, il est vrai, enfin, c'est un film qui est construit sur le dialogue, mais je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les moments de dialogue où là, on a vraiment toute la présence des deux personnages qui sont incarnés donc, par deux acteurs magistraux, et les moments où ces personnages ne parlent pas et où ils arrivent quand même à s'implanter dans le cadre. Il y a beaucoup de plans où on les voit marcher, enfin, on la voit marcher Charlotte Rampling parce qu'elle promène son chien dans la campagne. Il y a beaucoup de plans qui sont construits pour mettre en valeur ces personnages, même s'ils ne parlent pas. Et aussi, il y a toujours le moment un peu plus classique des épisodes de dialogue.
C'est parce que le film est aussi entièrement construit sur un non-dit, sur cette révélation initiale. Oui, Jeff avait une fiancée et cette révélation bouleverse tout. Et c'est ce non-dit et tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on découvre petit à petit, tout ce phénomène qui enfle tout le long du film, qui est le sujet principal du film, et c'est peut-être de là aussi que vient la force de ces silences, du fait que justement, on aurait presque envie, avec les personnages, que les choses soient dites. Y a un énorme non-dit, par exemple, autour du fait qu'il n'ait pas d'enfant, et il y a plein de moments où on sent tout ce poids, ne serait-ce que dans la première scène qui préfigure ça, quand elle félicite le facteur pour ses deux jumeaux, et avec un air complètement, complètement radieux. Il y a ce chien aussi, et la relation qu'ils ont chacun au chien, c'est-à-dire elle qui passe... Enfin, on la voit vraiment très souvent avec ce chien, qu'elle traite presque comme un enfant. Lui qu'on voit quasiment, oui, voilà. Lui qu'on voit quasiment jamais avec le chien, sauf dans les moments où justement ils se réconcilient. Et puis voilà, cet enfant qu'ils n'ont jamais eu. Le fait qu'au moment du film où ils essaient de faire l'amour, ils n'y arrivent pas aussi. Enfin, montre bien tout ce qu'il y a de communication qui ne se fait pas entre les deux personnages.
C'est un film qui gravite autour de silences, mais des silences qui ont vraiment une grande épaisseur. La scène la plus belle, c'est, je pense que c'est la scène pivot du film, c'est quand Kate pose la question et si elle n'était pas morte, et si vous étiez allé en Suisse. Ils sont comme, enfin c'est magnifique, ils sont couchés dans leur lit, il y a des longs plans sur leur visage à eux, on voit rarement les deux visages ensemble et la caméra alterne entre les deux, et il y a ce dialogue qui se noue hyper dangereux dans lequel enfin toute leur vie de couple va oui. s'engouffrer dans cette question finalement.
Et ça, c'est présent aussi dans la façon dont on filme les visages. C'est-à-dire que Charlotte Rampling est très souvent filmée de face, bien oui. nette, alors que Tom Courtenay est toujours quelque part en retrait. Il y a toujours une forme de distance, ou alors il ne regarde pas exactement le cadre. Et dans cette scène, par exemple, il n'est jamais vraiment filmé de face. Il est filmé du regard de Charlotte Rampling, voilà, alors que Charlotte Rampling, on la regarde directement.
Mais c'est un couple très dissymétrique, de la face. Déjà, physiquement, tu l'as déjà dit, Charlotte Rampling, c'est une femme qui a excellemment bien vieilli.
Elle est rayonnante.
Elle est rayonnante. Son mari, on le voit, il y a des scènes où il est torse nu avant de se coucher. Bon, voilà, enfin c'est la vieille personne qui a un peu moins bien vieilli. Et aussi dans la façon dont il parle, Charlotte Rampling a un anglais on ne peut plus académique, traditionnel, ouais. très international, alors que son mari parle un anglais populaire. Ouais. populaire du nord de l'Angleterre, et donc voilà, on a tout un jeu de dissymétrie constante dans ce couple.
Elle conduit, lui non, et ça veut dire beaucoup de choses aussi. Oui. Toutes ces scènes où elle prend la voiture pour le conduire quelque part,
c'est vrai. Oui, j'avais pas pensé comme ça, et parce que oui, lui, elle, c'est une institutrice.
Lui, c'est un ancien ouvrier.
Et lui, oui, il était contremaître.
Et s'adresse aussi à un
syndiqué.
Un portrait social aussi de ces campagnes anglaises, de ce troisième âge aussi qui est montré particulièrement vivant quelque part. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films où bon, les vieux dans les campagnes. Ben voilà, il y a Médecin de campagne qu'on a vu il y a quelques jours pour une prochaine émission. Bon, mais les vieux, ils sont tranquillement dans leur coin, moitié en train de mourir. Et il y a absolument pas cette dimension-là dans le film. Enfin, ça fait 45 ans qu'ils sont mariés, donc ils ont quand même un certain âge, ces deux personnages. Et pourtant, ils sont encore pleinement vivants, actifs, et ils se préoccupent encore de questions qui finalement sont très jeunes, la question de l'amour. Et d'ailleurs, la forme de jalousie de Kate paraîtrait presque ridicule sur une jeune fille, mais avec la force de l'âge, elle prend quelque chose de très grave.
Une dimension vraiment, vraiment tragique. Et j'ai adoré aussi la scène parce que on passe le film à entendre parler de ces montagnes suisses dans lesquelles Katia est venue trouver la mort, et c'est mis en parallèle avec la campagne anglaise complètement plate dans laquelle il n'y a plus que Kate qui se balade, et j'ai adoré le moment où on entreaperçoit ces montagnes suisses sur les photos, les diapositives que Kate vient projeter dans le grenier. Avec cette toile à travers laquelle on voit par transparence seulement, et son visage à elle qui regarde et qui se décompose progressivement.
Mais parce que il y a une scène où elle lui demande était-elle blonde, elle était brune, elle était brune comme moi, et donc du coup il y a tout
pas
un
comme
jeu
comme moi maintenant, comme moi avant.
Voilà, comme moi avant. Il y a tout un jeu de, parce que du coup en plus avec dans cette scène, il y a quasiment une superposition du visage de Katia sur le visage de Kate, donc de ça, voilà, enfin elle ne trouve plus sa place, elle a l'impression d'avoir vécu tous ces 45 ans dans un mensonge. Finalement.
Oui, il y a énormément de scènes très symboliques comme ça, au moment, vers la fin, quand Jeff fait son discours et qu'on voit Kate dans le miroir en même temps, il y a toute cette image qu'elle renvoie d'elle-même à tous leurs amis autour. Il y a beaucoup d'éléments de décor très très symboliques, très très symboliques comme ça. Le film, enfin justement dans cette scène par exemple, cette scène de surimpression des visages, c'est là que je pense que c'est un très très bon film. évite ce que je craignais un petit peu, c'est-à-dire que ça soit un film gentil. Et c'est justement par ces espèces de cette espèce de dimension un petit peu inquiétante qu'il devient vraiment, qui prend vraiment toute sa force. Je pense aussi à toutes ces manies qui reprennent Jeff. Il recommence à fumer. Il collectionne les objets liés à cette Katia avec une espèce d'obsession. Elle-même finit par recommencer à fumer. Et c'est là, c'est dans ce côté très inquiétant finalement de ce film qui.
Et alors qu'au début, c'est elle qui avait des petites habitudes bien réglées, sa petite promenade le matin, le verre d'eau quand elle rentre et qu'il prend son petit déjeuner, et peu à peu, c'est une mécanique qui s'enraye, qui se dérègle, qui finit par éclater. Et oui. Ça c'est très très bien rendu.
Et puis il reste encore la fin du film. Oui. Fin du film qu'on a réussi à ne pas vous raconter alors qu'on craignait de devoir le faire. On vous laissera donc voir ça. Fin du film avec une musique absolument magnifique, Smog It In Your Eyes des Platters. Oui. J'étais tout seul dans la salle à la fin du film et vraiment ça fait quelque chose. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On termine, comme d'habitude, avec une rapide revue de l'actualité cinématographique. Il est sorti la semaine dernière avec un certain fracas. Mad Love in New York suit Harley, une jeune fille SDF, toxicomane, qui dilapide ce qu'elle gagne en mendiant en héroïne. Et titube entre la drogue et sa seconde obsession, Ilia, qu'elle aime éperdument et pour qui elle est prête à tout, à vraiment tout. Le film suit ce couple, ses errances, ses conflits, son univers de junkie. New York est peinte dans toute sa violence, avec une cruauté et une émotion bouleversante. Continuons avec une sortie de cette semaine, Les Innocentes. Pologne, 1940, une infirmière de la Croix-Rouge française est appelée à l'aide par des religieuses polonaises. Devant leur détresse, elle se rend à leur couvent, où elle découvre 7 d'entre elles enceintes. Des soldats russes les ont violés en revenant d'Allemagne. Alors que la mère supérieure refuse toute aide extérieure, la jeune femme va tenter d'aider ses sœurs terriblement désorientées, y compris dans leur foi. Et c'est un film qui pose des questions vraiment très profondes, non seulement sur des questions de médecine, mais également sur toute la puissance de la foi face à certains drames tels que celui qui est décrit ici. Je vous conseille vraiment de regarder la bande-annonce parce qu'elle est particulièrement saisissante. C'est donc Les Innocentes de Anne Fontaine et ça sort cette semaine. Pour les amateurs de thriller, Pablo Trapero sort El Clan, qui plonge dans les heures noires de l'histoire argentine et suit une famille de kidnappeurs sans pitié, cachant ses activités sous les airs d'une famille sans histoire de Buenos Aires. Un film saisissant et sans merci, avec les facettes les plus sombres de l'Argentine. Dernière sortie de cette semaine, avec les deux parties de Homeland Irak année zéro, d'Abbas Fadel. Le réalisateur irakien, exilé en France depuis 15 ans, retourne en Irak en 2002, car il sent qu'une guerre s'y prépare. Il y filmera pendant des mois la population, les rues, les gens, le quotidien, et partout leur imprégnation par la guerre qui gagne petit à petit toute la société. C'est un documentaire qui s'annonce déjà comme un véritable monument et que je vous encourage à aller voir. Enfin, quelques événements à Lyon. Premièrement, le comédien repasse « Ceci est mon corps » en présence du réalisateur Jérôme Soubéran. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un curé qui tombe amoureux et qui monte à Paris pour y découvrir une auberge espagnole de la sexualité. Un grand n'importe quoi, jouissif et décalé. Enfin, je ne résiste pas à l'envie d'annoncer l'arrivée prochaine à l'Institut Lumière d'une rétrospective consacrée à Akira Kurosawa. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Manu et à Marie pour la technique, également à Mathias et Jérémy donc, et à très bientôt sur Transistor.
Merci à vous, Rémi, Rémi, Mathias et Jérémy pour cette émission d'Étoiles plein les yeux.